patriarca, patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en
l'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et ce soir, c'est Siam et Marina et Sam à la technique qui vous proposent une émission sur les féministes blanches et l'aveuglement à la race.
Alors, ça nous semblait très important de faire cette émission pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, c'est la question de la division des luttes. Alors, de la même manière qu'on entend parler du féminisme comme une lutte qui ne serait pas prioritaire, eh bien, on entend la même chose sur la lutte contre le racisme, c'est que ça pourrait diviser les femmes entre elles. Et une féministe blanche me confiait récemment que c'était aussi difficile pour elle de se sentir éloignée de ses sœurs féministes et que c'était difficile parfois en tant que féministe blanche de se retrouver, comme elle disait, du mauvais côté.
En tant que dominante, quoi. Eh ouais. Et pourtant, on dit souvent en tant que féministe, pour nous c'est vachement important de lutter contre toutes les formes de domination. Et ben parmi ces formes-là, il y a effectivement la domination raciste. Et en tant que féministe blanche, pour ma part, pour moi c'est vachement important de prendre acte et d'y réfléchir sincèrement.
Alors le racisme, la race, ce sont des mots vraiment tabous. On a beaucoup de mal à en parler, à manipuler ces concepts. Et du coup, le réflexe, ce serait de faire un rappel à l'histoire, de dire « Ah bah oui, dans le passé, il y avait l'esclavage, des formes de domination horribles, le racisme dans l'histoire, c'est facile d'en parler, mais ce qui est plus délicat et difficile, c'est de voir le racisme qui imprègne notre quotidien, chacun de nos actes et de nos gestes. » Et le racisme fait partie des fondements de notre société et comme dit un des intervenants plus tard dans l'émission, nous ne sommes ni dans le post-patriarcat, ni dans le post-racisme, alors autant prendre cette question frontalement et à bras-le-corps.
Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte en préparant l'émission qu'on avait du mal à manier ces mots-là, que souvent on cherchait nos mots, on savait pas trop comment dire les choses. Et mais aussi un exemple qui pour moi montre un peu l'état de fait de cette société raciste. Est-ce que si on cherche parmi les modèles féministes qu'on a un peu dans notre histoire féministe, dans notre culture féministe, et ben la plupart, les premiers modèles qui vont nous venir en tête seront probablement des femmes blanches. Et donc c'est intéressant peut-être d'en chercher d'autres et de les raviver à notre mémoire et de les célébrer aussi. Voilà, c'est important.
Alors, dans cette émission, nous allons écouter ensemble des extraits des conférences qui ont eu lieu cet été au colloque des UEH, colloque qui avait pour titre « À l'intersection des oppressions, quelle solidarité, quelle lutte ? Réflexion autour des oppressions race et genre ». Alors, les UEH, ce sont les universités d'été d'études euroméditerranéennes des homosexualités. Et ce sont des rencontres LGBTQI, c'est-à-dire lesbiennes, bi, gays, trans, queer, intersexes.
Et nous allons, la première intervention que nous allons écouter, c'est celle de Oria Kebabza. Oui, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que donc il y avait de nombreuses intervenantes dans cette conférence et donc pour ce soir nous avons choisi de n'en écouter que trois, sachant que les autres deux interventions à l'intérieur desquelles il y a trois personnes qui parlent en tout et donc les autres intervenantes, ce qu'elles avaient à dire était aussi très très intéressant, donc nous les passerons probablement dans de futures émissions. Et donc celle que nous allons écouter en premier s'appelle Oria Kebabza. Le titre de sa conférence était « Racisme, blanchité et système de privilèges ». Et Oria Kebabza est sociologue et chargée d'enseignement à l'université à Toulouse-Le Mirail et à Sciences Po de Toulouse. Elle est chercheure. Ses travaux portent essentiellement sur les rapports sociaux de sexe, les articulations entre sexe, race, classe et le processus de socialisation chez les jeunes nés de parents immigrés vivant dans les quartiers populaires. Elle mène aussi des actions de formation et d'accompagnement avec des travailleuses sociales sur les questions de genre, de jeunesse et d'immigration. Et son intervention nous intéressait particulièrement parce qu'elle nous propose de penser les questions de racisme en termes de privilèges plutôt qu'en termes de discrimination, ce qu'on a plutôt l'habitude de faire, donc ça, on trouvait ça intéressant.
Et la parole de Oria Kebabza sera ponctuée de celle de Kazé.
Bonne écoute, à tout à l'heure.
S'excuser d'être ici, dire merci pour l'esclavage aboli, mais qui nous y a mis, qui trimballe une subite amnésie, serment hypocrite d'une conscience sale, alors que jadis ton pays, celui de Clovis, puis de l'Afrique, le sacrifice de son avarice, tirant bénéfice de ses terres, ses épices, de nos pères au supplice et à son sévère service. Et pour ça que reçoivent les fils, filles d'esclaves, une vie chargée d'entraves, parquée dans les enclaves où l'oppression est moderne, les cistres à gouvernent. C'est le crépus que l'on veut crapuler en cellule, esclaves concernent des jobs subalternes, colonialisme habile. J'ai la mémoire indélébile lorsqu'on profite de mon profil, profane ma culture, occidentale procédure, tendure ma fierté, ma figure.
Ma fierté, ma figure. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de tout. Ici ton faciès te façonne, décide de
présence proscrite, méfiance prescrite. Le nègre égale parasite, slogan d'un accord tacite. Sa source, un site pourri d'indigènes, revendiquant leur gêne, pensant qu'on gaspille leur oxygène. Malgré les griefs, l'intolérance de ce fief, je refuse d'être conforme aux normes et nefs, étant déjà quota sous contrôle. Dès qu'on me frôle, persona non grata, mon premier rôle. Après le mythe du bon sauvage, voici la hantise du clan D, du sans-papier alpagué, celui qui mange dans l'assiette du français de souche, qui fout la merde avec ses coutumes louches. L'étranger à l'origine de la névrose, la gêne d'une nation se plaignant d'overdose. De plus, certains de ma race s'assimilent à qui est-ce, prennent part au délit de face.
Merci.
Bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que cet après-midi sera fructueuse et riche en réflexions autour de cette problématique qui me paraît effectivement, moi, très importante et sur laquelle j'essaye de travailler depuis quelques années. Donc le sujet que je vais évoquer avec vous pendant le temps qui m'est imparti, c'est vrai que c'est un sujet qui est largement impensé, en tout cas en France pour l'instant, et qui est toujours un petit peu difficile à aborder. Puisque lorsqu'on essaie de penser la domination et les systèmes de domination, on a tendance à se tourner du côté des dominés et bien entendu, on a tendance à ne pas regarder les dominants et les privilégiés des systèmes d'oppression, quels qu'ils soient, que ce soit le sexisme, le racisme, le système de classe, l'hétérosexisme, etc. Donc l'idée de mon intervention et de ce que je vais essayer de vous raconter, c'est d'inverser ce processus qui consiste à regarder uniquement les victimes, en l'occurrence les victimes du racisme, pour nous centrer sur les bénéficiaires de ce système et cette question des privilèges. Alors, mon intervention est beaucoup fondée sur des travaux et des références nord-américaines, états-uniennes principalement, hein, puisque aux États-Unis, c'est de là que c'est parti, l'ordre racial blanc-noir est tellement évident que on sait naturellement que ça pose question et qu'il faut modifier ce système. En France, la pensée universaliste, républicaine, etc., nous a inculqué le fait que nous, on est au-dessus de tout ça, en France, et donc on ne le voit pas. Et cet universalisme, il a été plus qu'un masque, il a également servi de cadre d'organisation à un système oppressif. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité à réfléchir à cet universel. En quoi un regard qui va questionner cet universel blanc offre donc de nouvelles perspectives? Tout mon propos, sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans la situation d'oppression, plutôt que de regarder uniquement les dominés, on va essayer en tout cas de regarder dans quelle mesure l'aliénation peut exister du côté des personnes dominantes. Et pour moi, une des références importantes, c'est un texte d'Albert Memmi qui a été un petit peu oublié. On a beaucoup mis en avant, lu et utilisé son ouvrage sur le portrait du colonisé. Et on a oublié qu'il avait écrit en parallèle le portrait du colonisateur. Et il montre très bien cette situation d'aliénation du côté des dominants, colonisateurs, et combien tout ça se construit en interaction permanente entre groupes dominants et dominés. Alors, deux temps. Je vais d'abord essayer de revenir rapidement sur les processus de racialisation et le concept de race en lui-même. Et ensuite, une autre partie sur la question de la blanchité et des privilèges blancs. Donc, ce premier temps autour de ce concept de race. Alors, évidemment, parler de race, sans guillemets, hein, puisque je n'en utilise plus, ça peut apparaître comme quelque chose de dangereux a priori, hein, puisque l'idée de race naturalisée, bien entendu, elle est associée à l'exploitation et à des tristes pages de l'histoire contemporaine. Donc elle fonctionne effectivement comme un repoussoir, aussi bien dans les sciences sociales, hein, dans le monde académique, que dans les espaces militants ou même dans le sens commun. Ceci dit, est-ce qu'il suffit de gommer un mot pour en faire disparaître sa réalité effective et concrète? Bien entendu, vous savez bien que non. Autrement dit, un racisme ou un antiracisme sans race, est-ce qu'il est possible? Je vous pose la question. En tout cas, moi, j'y ai répondu en choisissant d'utiliser ce concept. Alors, ça paraît toujours inutile de rappeler l'absence de corrélation scientifique entre caractéristiques physiques des personnes et évidemment leurs attributs, etc. Sauf que ça, je préfère toujours le rappeler, hein, même si c'est une évidence, quand je parle de race, bien entendu, cette idée n'a aucun caractère biologique, bien entendu. C'est une catégorie qui est socialement construite, au même titre que le genre, hein, qui est changeante selon l'époque et selon les lieux. Et on sait, à travers un certain nombre de travaux, aux États-Unis, encore une fois, hein, toutes les références sont états-uniennes. Il n'existe, il n'y a que ça en magasin pour l'instant. Donc, on sait à partir d'un certain nombre de travaux que différents groupes ont fait l'objet de racialisation, c'est-à-dire qu'ils ont été perçus par la société dominante de l'époque comme appartenant à une race différente. Et ça a été, par exemple, le cas des Irlandais aux États-Unis au XIXe siècle. C'est intéressant de ce point de vue, hein, de voir comment un groupe, pour diverses raisons, va être catégorisée en fonction donc d'une race réelle ou supposée. Et ce qui est intéressant dans les travaux sur justement les Irlandais aux États-Unis, c'est que un des auteurs qui a travaillé la question explique comment les Irlandais ont dû se livrer à un travail de différenciation symbolique vis-à-vis du groupe des Noirs pour faire ressortir leur propre blanchité et correspondre à la norme du WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant aux États-Unis. Alors, donc tout ça pour dire que les divisions raciales, elles sont bien sûr tributaires des histoires politiques des pays, chaque pays fabriquant une conception de la race qui lui est propre. D'où le fait qu'en France, cette idée de race, elle va être moins centrée sur la différence de couleur, quoique, c'est à réfléchir, c'est en questionnement, c'est des choses dont on pourrait débattre, donc moins la différence de couleur que la différence des origines. En tout cas, c'est ce qu'on met en avant. Toujours est-il que si ce nouveau racisme, hein, puisque, enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, c'est ce racisme culturaliste qui s'est installé en France à partir de la deuxième moitié du XXe siècle ne met pas en avant une supériorité biologique, hein, de certaines races sur d'autres, mais des différences culturelles entre les groupes, dits ethniques, tout ça, ça apparaît plus soft, mais dans la réalité, les dégâts sont aussi considérables que si on parlait de race biologique, selon moi. En tout cas, hein, voilà, tour de passe-passe, on passe de la race à l'ethnie, de la biologie à la culture. Concrètement, pour les personnes victimes de racisme, on est toujours dans le renvoi à des caractéristiques naturalisées, que ce soit la langue, l'origine, la religion, etc., etc. Et on va avoir tendance à homogénéiser une catégorie de personnes, voilà, en fonction de ces caractéristiques. Donc, ce terme de race, à mon sens, doit être entendu dans son sens le plus large, hein, c'est-à-dire qu'il englobe à la fois la couleur et une constellation de marqueurs, souvent visibles, qui sont censés représenter donc cette appartenance ethnique, l'origine nationale, la religion, la culture, etc., etc. Alors, lever les tabous sur cette idée de race, pourquoi c'est important ? Et pourquoi c'est important à la fois scientifiquement mais aussi politiquement, c'est que c'est ouvrir la possibilité de travailler sur une analyse systémique des inégalités. Et c'est pour ça que c'est important, hein, c'est pas uniquement de la simple rhétorique, c'est donc permettre que des données puissent exister pour rendre compte des discriminations et des inégalités racistes. Ça veut dire donc pouvoir se doter d'instruments de mesure pour questionner l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès aux loisirs, l'accès à l'école, etc., etc. La question donc des discriminations, qui fait l'objet depuis quelques années en France, hein, de politiques publiques et d'un certain nombre de dispositifs, la lutte contre les discriminations, qu'on voit aujourd'hui glisser vers ce qu'on appelle la promotion de la diversité, qui a le don de particulièrement m'énerver. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on remarque la manière dont on traite politiquement la question, au niveau institutionnel, j'entends, hein, la question des discriminations, c'est qu'on a pris soin de la séparer de la lutte contre le racisme. On a bien distingué les choses et on continue à regarder le racisme comme une affaire individuelle qu'il faut réparer. Donc, on doit rééduquer la personne, puisque ce sont des actes de méchanceté. Et il faut simplement donc rééduquer les personnes. Et vraiment, quand je dis ça, il m'est arrivé d'assister à des colloques où, à plusieurs reprises, j'ai pu entendre le fait que, idée bien pratique, vous allez voir pourquoi, qu'on peut discriminer sans être raciste, puisqu'on a développé depuis quelques années l'idée de discrimination indirecte, etc. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il existerait un racisme sans race. Là, ça voudrait dire qu'il existe un racisme sans raciste. C'est dans le sens où il peut effectivement exister un certain nombre de discriminations raciales sans que soit mobilisée forcément de la haine raciste voilà, classique telle qu'on l'entend. Et dans ce cas-là, il va s'agir de discrimination inconsciente. Et c'est vrai qu'il existe un certain nombre de travaux en psychologie et en psychologie sociale, notamment, qui développent ces questions. Les psychologues aux États-Unis appellent ça le racisme aversif, et ils ont beaucoup travaillé depuis les années 70 sur ce qu'ils appellent un phénomène qui est intéressant, en tout cas, parce que ça peut nous aider à comprendre un certain nombre de situations, c'est ce qu'ils appellent l'activation automatique des stéréotypes. Dans un certain nombre de situations, des personnes qui ne se disent pas racistes, ne se sentent pas racistes de manière consciente, peuvent activer automatiquement des stéréotypes sans forcément y adhérer a priori et de manière consciente. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est un processus qui est intéressant à avoir en tête. Toujours est-il qu'en France, la tendance commune, c'est de considérer le racisme comme un équivalent de la xénophobie, c'est-à-dire donc la peur de l'autre, de l'étranger, celui ou celle que je ne connais pas. Et donc tout ça disparaîtrait si on arrivait à se connaître un peu plus. Or, si la xénophobie est une composante du racisme, bien évidemment, elle ne s'y réduit pas, puisque le racisme, il est aussi institutionnel. Et au-delà, on est bien au-delà d'une question uniquement morale, on est bien sur une question politique.
Quelle importance que l'on se joue de notre ignorance, que l'on nous insulte d'un culte en permanence, que l'on nous juge, que l'on nous gruge, ceux qui dirigent savent qu'on les dérange du fond de nos refuges, d'étage en étage, les tours s'étirent autour des tas de barbares, alors qu'ils voulaient des martyrs, qu'ils voulaient nous mentir pour nous dérouter, mais trop de doute dans nos têtes nous a rendus entêtés. Conséquence, la dissidence se durcit, avance vers une violence sans merci, les nantis sont anéantis, parce que les exclus s'exclament et ont cessé d'être gentils. Hargneux et rigneux, des rebelles poussent, agités, motivés par une folie douce. La révolte se précise car ils méprisent les valeurs apprises, en bref leur conscience est en crise.
Crise de conscience.
Deuxième temps donc de mon exposé, la question donc de la blanchité pour arriver à la question des privilèges. Colette Guillaumin écrivait en 78 « On dit des Noirs qu'ils sont noirs par rapport aux Blancs, mais les Blancs sont tout court. Il n'est pas sûr d'ailleurs que les Blancs soient d'une quelconque couleur. » Tout est dit. En quoi c'est intéressant cette phrase, c'est que jusque-là, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, on regarde les victimes, donc on pense que la question de la race et du racisme mais ne concerne que les personnes, entre guillemets, là du coup je vais mettre des guillemets non blanches, parce que la terminologie ne me plaît pas du tout, mais bon, aurait quelque chose à voir avec la race. Et c'est là qu'on est dans ce fameux renversement de perspective, hein. Donc si on parle de blanchité, vous rencontrerez dans des travaux ou dans des écrits, certains auteurs parlent plutôt de blanchitude, d'autres de blancheur. Moi je fais le choix de parler de blanchité parce que dans le groupe dont je fais partie, on a choisi d'utiliser le terme de blanchité parce que le mot de blanchitude rappelait le concept de négritude et du coup ça nous paraissait pas pertinent de faire un parallèle. Je vous rappelle que le concept de négritude a été développé par notamment Aimé Césaire, hein. Je suis nègre et fier d'être nègre, etc. Donc l'idée de négritude renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la résistance et de la revendication. Voilà, de la négritude, on n'est pas du tout dans ce cas-là, hein. On n'est pas du tout dans la revendication d'une blanchité ou d'une blanchitude quelconque. C'est pour ça que donc, voilà, le terme de blanchité nous paraissait plus pertinent. Aussi longtemps que le groupe des Blancs ne seront pas nommés et perçus comme un groupe racial au même titre que tous les autres groupes, alors le Blanc sera la norme, sera le standard et représentera l'universel. Et les autres groupes, bien entendu, d'éternelles minorités qui renvoient aux particuliers, aux spécifiques, etc., etc. Alors, grande question, Faut-il parler de la peau blanche et de ses privilèges associés? Est-ce que c'est une variable véritablement pertinente pour penser la question de la domination? Et comment les personnes blanches peuvent-elles se dire blanc et blanche? Parce que, comme je le disais pour l'idée de négritude, hein, alors que pour certains groupes minoritaires, cette affirmation de type identitaire, elle peut permettre une certaine émancipation, c'est une forme de lutte, de résistance, etc. Contre ce que Colette Guillaumin définit comme l'essence hein, du rapport raciste, c'est-à-dire le fait pour hein, ce qui représente la norme et l'universel, le fait de ne pas être catégorisé ou nommé, parce qu'elle l'écrit encore brillamment, le majoritaire ne se nomme pas, il est défini en creux par ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire noir, jaune, juif, femme, arabe, homosexuel, handicapé, etc. etc. Hein, on pourrait décliner. Et dernière citation de Colette Guillaumin, mais j'aime tellement, pour moi c'est vraiment un plaisir de la citer à chaque fois. Le groupe adulte blanc de sexe mâle catholique, de classe bourgeoise, sain d'esprit et de mœurs, et donc cette catégorie qui ne se définit pas comme telle et fait silence sur soi-même. Elle impose aux autres, cependant, à travers la langue, sa définition comme norme, dans une sorte d'innocence première, croyant que les choses sont ce qu'elles sont. Alors donc, comment les blancs et les blanches peuvent-elles et ils se dire blancs et blanches? C'est assez déplaisant à entendre en règle générale, puisqu'on a d'un côté l'infinie diversité du groupe des personnes blanches face à la prétendue homogénéité des groupes minoritaires ou minorisés. Alors, bien entendu, là encore, pas de dimension moralisante dans cette approche. Et pourtant, là aussi, hein, les écrits états-uniens, et notamment Bell Hooks, une chercheuse féministe noire, avait souligné à quel point les gens étaient à la fois et surpris et furieux dès lors qu'on prêtait attention à la blanchité et dès lors que les personnes blanches étaient vues comme des personnes blanches, par des minoritaires évidemment, hein. Alors, effectivement, autour de ça, c'est un chantier hein, sur lequel on a à réfléchir collectivement, hein, quels que soient les espaces dans lesquels on se trouve, pour caractériser un peu mieux. Hein. Moi, là, je suis au début de la réflexion et ce qui se passe aux États-Unis n'est pas valable forcément, évidemment, pour ce qui se passe en France. En tout cas, il me semble que toute cette réflexion-là, elle peut nous servir à penser les choses ici et maintenant. Et en tout cas, dans le contexte français, je trouve qu'il faut réfléchir au rôle joué par le processus d'assimilation des immigrés dans cette histoire, dans la mesure où l'on sait que, ici comme ailleurs, il existe toujours des bons et des mauvais immigrés, les intégrables et les inintégrables. Blanchité, elle s'incarne à la fois dans un processus qui s'appelle l'aveuglement à la couleur, color blindness, ou aveuglement donc à la race, ce qui signifierait que la race ou la couleur n'ont aucune importance, puisqu'il n'y a pas de fondement biologique. Or, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que loin d'être une façon de se libérer du racisme, cet aveuglement à la race ou à la couleur devient au contraire une arme qui est utilisée par le groupe dominant pour invisibiliser les privilèges et protéger et pérenniser une situation de privilégié. Donc le premier privilège des Blancs, c'est de ne pas avoir à penser à la race. Et je vous cite une anecdote qui est citée par un chercheur, il s'agit de Michael Kimmel, et qui raconte qu'il participait à un groupe de discussion féministe. Et lors de la discussion, et il est question de sororité entre les femmes, et au cours de la discussion, une femme noire demande à une femme blanche « Qu'est-ce que tu vois le matin quand tu te regardes dans un miroir ?» Et la femme blanche répond « Je vois une femme. » Ce à quoi la femme noire répond moi, je vois une femme noire. Le problème, encore une fois, il est précisément là. Et le privilège, il est précisément là, celui de ne pas avoir à penser à la race.
Quoi qu'il en soit ou quoi qu'ils en savent, nos récits récidives, car maladive est la haine qui active nos salives. Fils de prolo, enfants prolixes, avec des envies de meurtre et des envies de luxe dans le lexique de nos lyrics. Qu'est-ce qu'on nous offre? Les affres d'une réalité affreuse, un faciès en crise, une conscience creuse, une vie indécente, indécise, entre vertu et convoitise, dans un bled qui nous méprise, vise, la répression est de mise, la bavure est admise, et c'est nos têtes soumises que les soufis prennent toujours préconise au programme de leur propagande, nos âmes à vendre, le profit, le progrès qu'ils scandent, même s'ils s'en défendent, des projets perfides, pour des frères à l'estomac vide, ont rendu les fils du sacrifice rusé et solide, à présent, les purs produits de la crise ont la phrase acide, chapitre 1, épisode 1. Un spécial homicide.
Alors, à niveau institutionnel, on va le retrouver par exemple dans les, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein, dans le débat autour des statistiques ethniques, alors que l'exigence de non-discrimination, elle imposerait une obligation justement de tenir compte d'un certain nombre de différences liées à la race, à la couleur, etc. Donc, la visibilité de celle-ci, plutôt que cette espèce d'ignorance plus ou moins délibérée dans laquelle on est en France à ce point de vue, hein, de ce point de vue, du fait de refuser de catégoriser, de stigmatiser, nous dit-on, encore plus les groupes minoritaires, du coup, il devient impossible de savoir avec certitude qu'il existe des inégalités et des injustices raciales. Aux États-Unis, on sait très précisément que, par exemple, un enfant noir a 3 fois plus de chances qu'un enfant blanc d'être malade du saturnisme. Voilà, on ne veut pas des statistiques dites ethniques pour compter, voilà, ça peu nous importe. Par contre, dès qu'il est question des inégalités, ça c'est important d'avoir des chiffres là-dessus. Et c'est autour de cette revendication-là que c'est important.
À présent, j'ai le jugement clair et limpide. Je sais qu'être parano ici, c'est d'être lucide.
Dernier temps de mon exposé, donc la question des privilèges blancs. Puisque donc toute une partie de ses études sur la blanchité porte donc sur cette idée de privilège, c'est-à-dire sur la différence de pouvoir entre les blancs et les non-blancs, et donc sur les avantages relatifs que les blancs ont pris l'habitude de considérer comme normaux ou allant de soi. Je me fonde là beaucoup sur le travail réalisé par Peggy McIntosh, chercheuse féministe et antiraciste blanche. Et elle définit les privilèges de la peau blanche, white skin privilege, comme un pack invisible, chargé de biens immérités, sur lesquels elle peut compter dans sa vie quotidienne, mais au sujet desquels elle était supposée demeurer inconsciente. Voilà, elle décrit ça comme une espèce de sac à dos, où elle peut aller puiser, en fonction des situations et des contextes, pour faire jouer sa position de privilégié. Alors, l'idée donc de ces privilèges, liés à une position de blanc ou de blanche, c'est que donc toutes ces personnes bénéficieraient d'un certain nombre d'avantages relatifs, liés donc à leurs conditions de personne blanche, mais bien évidemment l'ampleur et le degré de ces privilèges vont changer en fonction d'autres variables comme le sexe, la classe, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle, l'âge, la capacité physique, etc., etc. C'est pour ça que l'idée d'articulation des différents systèmes d'oppression, elle est évidemment fondamentale. Alors, juste, comment définir ce concept de privilège? L'idée, le terme en lui-même, il n'est pas très satisfaisant. Moi-même, il y a des fois, je patine un peu, je ne suis pas très, très à l'aise avec ça, je ne suis pas très confortable, mais enfin, bon, faute de mieux, encore une fois, je continue à l'utiliser. Mais donc, pour le caractériser plus précisément, l'idée de privilège, c'est que c'est un avantage particulier, donc attribué de manière individuelle à chaque personne. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est accordé et pas gagné grâce à un effort individuel. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vient tordre le cou au mythe de la méritocratie, qui est très développée et dont on nous rebat les oreilles en permanence, comme s'il n'y avait aucun déterminisme, quel qu'il soit. Troisièmement, le privilège, il est exercé au profit de certains et de certaines, donc forcément au détriment des autres. Et enfin, donc, ce statut de privilégié, il est souvent inconscient. Donc, ce privilège social, c'est donc une faveur, un avantage, une immunité, voire même une impunité. « En insistant pour que le racisme ne soit pas réduit à un problème qui concerne uniquement les minorités raciales, les Noirs, les Arabes, etc., 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 mais soit aussi une question blanche, donc il s'agit de montrer comment toutes sortes de relations sociales, même celles qui semblent neutres, sont en fait racialisées. Donc c'est à la fois dans des facteurs matériels, mais aussi plus culturels, que tout ça donc va s'incarner et que vont s'enraciner ces privilèges des Blancs. La dimension matérielle, on va la retrouver dans la distribution des biens, des ressources, dans la division du travail, dans les politiques d'immigration. Et puis, des facteurs davantage culturels, symboliques, on va les retrouver dans un certain nombre de comportements, dans des modèles culturels, dans des modèles de pensée et surtout dans le langage. Ce sont les caractéristiques du groupe privilégié qui vont définir la norme. Et de la même manière que, par exemple, c'est la norme masculine qui définit, j'en sais rien, par exemple, la norme au niveau sportif. Voilà, par exemple. J'ai été frappée en lisant, mais vraiment, ça a fait tilt, et ça a fait tilt chaque fois que j'en ai parlé dans des cours ou dans des ateliers que j'ai pu mener, comment la norme de la couleur chair qui est censée, ben voilà. Si vous allez acheter des pansements ou des sous-vêtements, voilà, la couleur chair ben, correspond à une certaine couleur qui n'est pas forcément la couleur de peau de toutes les personnes qui vont voilà, utiliser les pansements ou les sous-vêtements en question. Alors, bien que les titulaires des privilèges soient des personnes individuelles, hein, le sac à dos invisible hein, que décrit Peggy McIntosh, multiplié par le nombre de personnes qui en bénéficient, vont en faire un phénomène social qui, bien sûr, va en faire sa force et sa nature, donc, systémique. Voilà. Alors, on est bien d'accord, je le répète, c'est important, l'idée de privilège, ça reste une affaire, donc, qui est relative, hein, quand on compare les situations. Donc, si les Blancs du groupe majoritaire sont privilégiés, donc, au détriment des minoritaires, même les Blancs les plus pauvres, ou les Blancs SDF, à conditions égales, on va dire, peuvent être avantagés du fait de leur appartenance au groupe majoritaire. Et surtout, dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il existe, enfin, c'est que la manière dont j'utilise cette idée de privilège et la manière dont il faut la penser, c'est que ce sont des privilèges non discrétionnaires. C'est-à-dire qu'il pourrait exister des privilèges ou des avantages discrétionnaire dans le sens où je vais choisir de les utiliser ou pas. Le privilège social tel que je le décris, c'est un privilège non discrétionnaire, c'est-à-dire que ce sont des avantages qui sont octroyés aux personnes des groupes majoritaires sans avoir à le décider, qui sont octroyés de fait de par ma seule appartenance au groupe majoritaire ou dominant. Puisque bien entendu, vous le savez bien, on ne peut pas traverser des frontières aussi aisément. Si j'ai la peau noire, eh ben j'ai la peau noire. Hein. Et donc difficile, du coup, de se soustraire à l'oppression raciale. En conclusion, que faire avec tout ça? Justement, pour ne pas rester dans cette impuissance qui apparaît très, très souvent. Donc, premier point qui me paraît important, c'est donc reconnaître la dimension invisible des privilèges, puisque les silences, les tabous, les dénis, les dénégations de toutes sortes qui entourent ces privilèges sont les instruments politiques essentiels de leur reproduction. Et selon moi, si on ne fait pas ce travail-là, toutes les réflexions sur l'égalité, elles resteront forcément partielles. Donc, deuxièmement, passer de la position de déni ou de culpabilité à une attitude à la fois de reconnaissance mais aussi de responsabilisation, dans le sens où ne pas décider, ben c'est aussi une position. Et puis, troisièmement, c'est revendiquer... Moi-même, je ne le fais pas assez, donc c'est une recommandation que je me fais d'abord à moi-même. Mais en tout cas, utiliser des chiffres dans la mesure du possible, ou enfin en tout cas des éléments qui rendent visibles à la fois, bien sûr, les inégalités, les discriminations, c'est absolument indispensable et nécessaire, mais aussi les privilèges. Tout simplement, plutôt que de dire que les femmes sont payées 25% de moins que les hommes, il faut arriver à dire que les hommes bénéficient des dividendes de la masculinité et qu'ils sont payés 25% de plus que les femmes. Et là, on rend visible le privilège. C'est aussi bête que ça, sauf qu'on n'y pense jamais. Et bien entendu, idem pour les inégalités racistes. Plutôt que de dire que les jeunes femmes dites issues de l'immigration ont 2,5 fois plus de chances d'être au chômage que les hommes français de souche, mettons en évidence que ces derniers, donc, hommes blancs, bénéficient des discriminations racistes à l'embauche. Vous voyez bien que on change la perspective, on change sa manière de penser les choses et on visibilise tous ceux qu'on nous force et qu'on nous habitue à considérer comme étant quelque chose d'invisible. Et juste l'ouverture du débat, en tout cas la grande question à laquelle il faut arriver à se poser et à poser dans tous les espaces dans lesquels on est, me semble-t-il, c'est de se dire à tout moment combien d'hommes sont bouleversés par les avantages systémiques liés à leur sexe, combien d'hétérosexuels et hétérosexuels ont conscience de l'hétéronormativité qui irrigue l'ensemble de notre société, combien de blancs et de blanches le sont par les bénéfices secondaires liés au racisme. Si on arrive à réfléchir un tout petit peu là-dessus, il me semble que dans les luttes, on aura fait un tout petit pas. Merci beaucoup.
Pull up in a monster, automobile gangster, with a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a tanga, color of Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. Okay, first things first, I'll eat your brain. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs. Cause that's what a motherfucking monster do. He a dresser from Milan, that's the monster do. Monster Giuseppe Hill, that's the monster show. Young Money is the roster and a monster crew. And I'm all up in the bank with a funny face. And if I'm fake, I ain't noticed. My money ain't.
Let me get this straight. Wait, I'm the rookie, but my features and my shows 10 times your pay. 50K for a verse, no album out. Yeah, my money's so tall that my Barbie's gotta claim it. Hotter than the Middle East and claim it. Find it. 20 my Tyrande, wine it. Nicki on them titties when I sign it. Got these niggas so one track minded. But really, I don't give a F-U-C-K. Forget Barbie, fuck Nicki, she's fake. She on a diet, but my pocket's taking cheesecake. And I'll say, boy, the Chucky is Chalk's play. Just killed another career, it's a mild day. Besides, yay, they can't stand besides me. I think me, you, and Ian should Minaj Friday.
Pink wig, thick ass, give them whiplash. I think big, get cash, make them blink fast. Now look at what you just saw, this is what you live for. I'm a motherfucking monster.
Vous venez d'écouter Monster de Nicki Minaj.
Et vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, l'émission Dégenré vous parle donc toujours de cette question des féministes blanches et de l'aveuglement à la race. Et là, on écoutait donc un extrait d'une conférence faite aux UEH avec Oria Kebabza, qui est chercheure à Toulouse.
Oui, alors cet extrait était très intéressant et m'a beaucoup parlé parce que je vais parler de moi en tant que féministe racisée. Quand je commence à travailler sur le racisme ou ce que je perçois comme tel, il vient de la part de mes amis et camarades féministes. Et alors que ces camarades-là sont par ailleurs très strictes et intransigeantes en ce qui concerne d'autres formes d'oppression. Mais du coup, comment en parler, comment visibiliser ça, surtout que parfois c'est subtil et que ça peut mener à des formes de questionnement paranoïaque.
De la part de qui ?
De moi.
Ah, de toi. moi, je trouve que ça amène cette idée de le sac à dos dont elle parle et de subtilité.
Par exemple, en tant que meuf, quand un gars il nous parle trop mal ou quand un gars nous snob ou qu'un gars juste remarque même pas notre présence, on se dit est-ce que c'est parce que je suis une meuf ? Est-ce qu'il aurait parlé comme ça à un gars ? Direct, on se fait traiter de féministe hystérique et paranoïaque. C'est pareil pour le racisme, en fait. Du coup, dès que quelqu'un ou quelqu'une se comporte avec moi d'une manière un peu méprisante, je me dis est-ce qu'elle aurait fait pareil avec une camarade blanche ? Est-ce que c'est ce truc de ma race qui fait ça ? Et voilà, ça que je veux dire.
Oui, et comme disait Oria Kebabza, pardon, c'est donc bien le privilège, un des le plus gros privilège des blancs et des blanches, c'est de ne pas avoir à y penser. On n'a pas à penser et à ça. Donc au fait que c'est parce qu'on est blanc ou... et alors que toi ce que tu dis c'est que du coup ça devient toujours en tête, ça me fait penser à dans le montage qu'on a écouté, il y a cet extrait d'un morceau de Cazet et elle dit je sais qu'être parano ici c'est être lucide.
Oui.
Alors ça nous amène un peu à cette liste de Peggy McIntosh dont parle aussi Oria Kebabza dans son intervention. Nous on trouvait que ça valait le coup de d'en lire quelques-uns. On a sorti cette liste qui se trouve sur internet, hein. Si vous tapez dans un moteur de recherche privilège blanc, dans les premières réponses qui sortent, c'est donc Peggy McIntosh qui a fait ce travail. Alors on trouvait intéressant d'en lire quelques-unes et de peut-être d'en discuter, enfin de les reformuler aussi pour voir en quoi elles nous parlent. Alors moi je vais parler à la première personne et toi Siam tu vas me parler et puis tu vas parler aux auditrices blanches à la deuxième personne. Alors par exemple, le premier de la liste, je peux, si je le désire, m'arranger pour être en compagnie de gens de ma race la plupart du temps.
Et aussi, tu peux allumer la télé ou regarder la première page du journal et voir les gens de ta race largement représentés.
Plus que largement, je crois. Et bien aussi, quand on me parle de notre héritage national ou de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui ont fait ce qu'il en est.
Tu peux être sûr que tes enfants recevront des éléments scolaires qui témoigneront de l'existence de leur race.
Je peux être... Alors celui-là, je le trouve bien, je vais essayer de le dire clairement. Je peux être pratiquement sûr qu'on entendra ma voix dans un groupe où je suis la seule membre de ma race. J'ai bien envie d'essayer de le reformuler parce que celui-là, je le trouve vrai, mais pas facile à admettre. C'est-à-dire que si je suis dans un groupe où je suis la seule blanche, si je parle, a priori, ma parole va avoir une certaine importance.
Tu peux tout simplement aller dans un magasin de musique et y trouver représentée la musique de ta race. Tu peux aussi aller dans un supermarché et trouver les aliments de base qui correspondent à tes traditions culturelles et culinaires. Et aussi, aller chez un coiffeur et trouver quelqu'un pour me couper les cheveux. C'est-à-dire, tu peux sortir de chez le coiffeur en ayant une coupe qui te va.
Adaptée à la nature de mes cheveux, tu veux dire.
C'est ça.
Il me semble que toi, tu as quelques anecdotes assez douloureuses à ce sujet-là.
Oui.
Non, bon, c'est sûr que quand... voilà, ça peut paraître un détail, mais bon, c'est assez... mine de rien, c'est très important.
Il y en a une aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est... que toi, tu peux être à peu près certaine que si tu demandes à parler à la personne responsable... Eh ben, tu rencontreras quelqu'un de ta race.
Et je n'aurais même pas pensé, ça me paraît très évident. Et dans l'autre sens, si je suis dirigeante de quelque chose ou responsable de quelque chose et que il me semble que j'ai peu de crédit à ce sujet-là, que ça marche pas trop, je peux être sûre que c'est pas ma race le problème. Peut-être que je me dirais que c'est parce que je suis une meuf.
Ouais, mais, voilà.
Pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure.
Alors, tu peux parler la bouche pleine sans que des gens ne l'attribuent à ta couleur. Et tu peux aussi... Et on ne te demande jamais de parler au nom de tous ceux de ton groupe racial. Alors, c'est ce truc d'homogénéité du groupe, de l'autre, du groupe alter.
Ça me fait penser à... Alors, je trouve ça intéressant les parallèles et d'essayer de faire des parallèles pour bien saisir les mécanismes. Ça me fait penser à une copine grosse là qui a écrit une brochure hyper importante et qui a pas mal fait discuter et justement fait avancer sur le rapport de l'oppression de la grosseur, qui est donc une autre oppression de notre merveilleuse société. Et elle dit « Je peux pas marcher dans la rue et manger un sandwich dans la rue » sans qu'on me regarde comme si je savais pas m'alimenter correctement et que c'était pour ça que j'étais grosse. Et vous voyez un peu ce truc. Et moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. Quand je mange un sandwich dans la rue, je m'en fous, quoi. Et je trouvais ça intéressant, l'histoire de manger la bouche pleine et qu'on va te regarder comme si... voilà. Encore une fois, c'est intéressant de voir quels sont mes privilèges de pouvoir manger un sandwich dans la rue, manger salement sans qu'on l'attribue à mon origine raciale. Moi, un qui m'a bien parlé, justement aussi pour la complexité de ces oppressions. Si un flic m'ordonne de me ranger quand je suis en voiture, je peux être sûre que je n'ai pas été sélectionnée à cause de ma race. Peut-être parce que j'ai une bagnole de pauvre et que j'ai un look bizarre, mais pas à cause de ma race. Donc voilà, pour l'imbrication un peu des trucs. T'en avais d'autres, toi, qui te parlaient ?
Oui.
Parce qu'il y en a 50 et quelques, hein, donc on vous les lit pas tous.
Je n'ai pas à éduquer mes enfants à être conscients du racisme systémique pour leur protection physique quotidienne.
Attends, tu peux le répéter celui-là ? Je suis désolée, il y a eu un mot compliqué au milieu qui m'a...
Je n'ai pas à éduquer mes enfants d'être conscients du racisme systémique pour leur protection physique quotidienne.
Et alors, du coup... On voulait aussi parler des ateliers de conscientisation que Auriac et Babza, notamment, elle fait,
alors,
elle organise.
Alors, en 2003, à Toulouse, elle a créé un groupe race et genre. C'est un groupe non mixte femmes racisées. Et elles ont travaillé à partir des travaux donc, de Peggy McIntosh dans une perspective antiraciste et antisexiste, c'est-à-dire qu'elles ont ajouté la notion de genre dans cette liste de privilèges. Et donc ces ateliers ont permis à toutes ces femmes de parler des oppressions qu'elles vivaient, et elles ont pu en faire profiter donc des personnes blanches pour les aider à prendre conscience de leurs privilèges de blanc.
Parce que donc leur groupe est non mixte femmes racisées, mais elles proposent ces ateliers en mixité, autant à des femmes qu'à des hommes blancs.
C'est ça. Alors Auria, elle expliquait que bien souvent, les femmes étaient beaucoup plus réceptives à cette notion de privilège que les hommes, parce que bien sûr, elles vivaient l'oppression d'être une femme au quotidien, donc elles pouvaient très facilement transposer à celle d'être non blanche. Les hommes avaient plus de réticences, et alors les réticences, elles pouvaient avoir plusieurs formes. Par exemple, la résistance à penser ses propres privilèges. Et avoir tendance à rebasculer sur les victimes. Plutôt que de parler de nos privilèges, on va plutôt parler
des discriminations que vivent les personnes racisées.
Et que c'est difficile de penser sa position de privilégié. Parfois, les réactions, c'était des sentiments très très forts de culpabilité, mêlés d'impuissance. Donc, mais c'est horrible, je fais partie d'un groupe dominant, qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a rien à faire. Voilà, donc ça, c'était souvent des choses à gérer pendant les ateliers. Et elle donnait un exemple d'un homme qui avait fortement opposé de la résistance à voir sa position de privilégié en essayant de prouver coûte que coûte qu'il était antiraciste. En disant, mais regardez, moi je suis antiraciste, je fais ci, je fais ça. Mais ce que Ria voulait dire, c'était que ce n'est pas en prouvant qu'on est antiraciste que ça nous exonère de nos privilèges de blanc. Et voilà le problème. Souvent les gens aussi essayent de parler de leur propre oppression, par exemple l'oppression de classe, en disant mais non, mais moi aussi je suis ici d'une classe inférieure, donc je ne peux pas être dominant dans cette société, c'est pas possible.
C'est très dur à admettre, quoi. C'est peut-être en ça que la liste dont on a lu des extraits là est intéressante. Ça permet quand même de visualiser très concrètement les domaines dans lesquels les privilèges vont s'exercer. J'ai envie de dire aussi parfois malgré nous, quoi.
Donc, j'ai retrouvé un privilège que j'aimais bien.
Ouais.
On ne t'a pas rendu pleinement consciente que ta silhouette où ton odeur corporelle sont vues comme des reflets de ta race. Voilà, celle-là, elle m'avait bien parlé.
Alors, nous pouvons méditer là-dessus en écoutant un petit morceau de musique. Alors, qui est-ce qu'on va écouter ?
Barbara Luna, une chanson qui s'appelle India Morena.
À tout à l'heure.
India morena blanca, mestiza de sangre pura, India morena de corazón, blanca de vestidura, india morena blanca, mestiza de sangre pura, fiel a mi tradición, sol de patria que alumbra, es la voz del pueblo que no murió, es la voz, pueblo vives en mi interior, es la voz, india morena de corazón, es la voz, pueblo vives en mi interior, india morena blanca, mestiza de sangre pura, india morena de corazón, blanca de vestidura, india morena blanca, mestiza de sangre pura, fiel a mi tradición, sol de patria que alumbra, es la voz del pueblo que no murió, es la voz, pueblo vives en mi interior, mestiza, india morena de corazón, blanca de vestidura, mestiza de sangre pura,
india morena.
Tierra bebió, corren las venas del sol, cantando yo me quedaré, viviendo mi pasión.
India soy, mestiza soy, de corazón. India soy, mestiza soy, de corazón.
Yo canto la tradición, que mi pueblo está llorando, camino de la verdad, por la que siguen luchando. Soy morena de vestidura y blanca de sangre pura. Yo canto mi tradición, sí señor.
India soy, mestiza soy, de corazón. India soy, mestiza soy, de corazón.
Con la fuerza del dolor camino hacia versos claros, buscando iluminar las calles del desengaño.
Toujours à l'écoute de Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaleidoscope 97FM ou peut-être sur Internet, où vous pouvez trouver la plupart de nos émissions téléchargeables. Rendez-vous sur le site radiorageuse.org. Donc maintenant, on va continuer un peu sur cette émission et justement de parler de cette question de l'aveuglement à la race avec... avec une intervention de deux militants transféministes racisés qui donc intervenaient dans ce même colloque et qui nous parlent notamment de la difficulté à construire des masculinités, enfin je sais pas comment, à construire des masculinités en tant que transracisés et féministes. Donc justement toujours cette histoire d'imbrication un peu des réflexions sur les dominations.
Et ils vont aussi et surtout nous parler de l'aveuglement à la race qui a donné le titre à notre émission.
Donc on écoute leur intervention qui est ponctuée d'extraits de musique d'un groupe qui s'appelle ESG.
On va commencer par se présenter chacun notre tour, parce que pour nous, c'est important de situer la position sociale depuis laquelle on parle, avant de parler de nous. Ensuite, on parlera de la complexité à construire une masculinité trans en tant que féministe d'une part et en tant que personne racisée d'autre part. Et enfin, on abordera en quoi notre place est minoritaire dans le milieu féministe dans lequel on évolue. Alors pour préciser, pour savoir de quoi on parle, on évolue dans des milieux féministes, on va dire anarchistes, et dans des milieux transpédéguines. Voilà, en dehors de partis ou d'organisations. Je vais commencer à me présenter. Alors, je suis donc trans, F2M, féministe. Je suis née, j'ai grandi dans une famille blanche, classe moyenne supérieure, d'origine bourgeoise et catholique. Et donc j'ai reçu des codes culturels blancs et bourgeois. Le racisme que je vis en tant qu'asiatique en France, pour moi, prend des formes différentes que celui dirigé envers les Noirs, les Arabes et les musulmans et les musulmanes. C'est des mécanismes qui sont identiques, mais ce sont des formes différentes parce que la propagande politico-médiatique raciste dans le contexte actuel français est essentiellement dirigée envers les Noirs, les Arabes et les musulmans et les musulmanes. Donc, pour moi, les projections et les effets, les projections racistes et les effets que je subis sont, on va dire, moins hostiles ou évidents ou violents, mais ça va être plus diffus, exotisant, etc. Voilà. Donc, j'ai parlé que je venais d'une famille, enfin que j'ai grandi dans une famille blanche, mais aussi un revers, c'est que je me suis longtemps considéré comme blanc vu que ma famille était blanche. Malgré le fait qu'ils m'ont tout le temps souvent renvoyé que j'étais pas comme eux, que j'étais différent, que même mon arrivée dans cette famille a fait quelques scandales.
Mais alors moi c'est Anakin, moi aussi je suis trans FTM. J'ai été adoptée, donc je viens aussi d'une famille blanche, catholique et bourgeoise, ce qui implique plein de choses, comme d'avoir été scout ou au catéchisme et à la messe jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Donc je me suis toujours vue comme un grand blanc blond jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Du coup, en transitionnant, je suis devenue féministe, et c'était une évidence pour moi. Et du coup, ce féminisme, il est enrichi par des nouveaux questionnements d'année en année. Après avoir longtemps planché sur les questions de genre, c'était surtout lié à ma transition, j'ai compris que j'étais pas si blanc que ça. Du coup, on va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à m'interroger sur les questions de racisme. Voilà, moi j'avais envie de parler de la construction d'une masculinité trans et du coup d'une masculinité transracisée. Et c'est construire une masculinité trans, pour moi, ça pose tout d'abord le problème du manque de modèle. Sabrine, elle parlait d'histoire et du coup d'anciennes féministes lesbiennes of color. Nous, on n'a pas ça. Du coup, il y a définitivement une impossibilité d'identification à des personnages trans qui pourraient correspondre à une idée qu'en tant que féministe, l'on aimerait se faire de la masculinité. Moi, j'ai toujours été attirée vers des types de masculinité qu'on dit non viril, comme Kurt Cobain, hein, le grand blond. À l'inverse, le seul type de masculinité qui me plaît, qui m'attire, qui me fait quelque chose chez des personnes racisées, ce sont les masculinités viril et dans le pouvoir, avec comme seul et ultime exemple Joe Star.
Moi aussi, je voulais aborder la complexité à construire une masculinité trans. Que bon, comme Anakin, j'ai eu un peu des modèles de masculinité blanche. Voilà, mais que moi, je voulais aborder plus d'autres questionnements que j'ai, où j'ai absolument pas de réponse. C'est que d'une part, en tant que féministe, Je voulais pas construire de masculinité, disons, virile, imposante, oppressante, qui prenne toute la place, parce que c'est des masculinités que je combats. Mais par ailleurs, disons que les projections racistes et coloniales sur les masculinités asiatiques renvoient à une idée de la masculinité, disons, efféminée, soumise, effacée, discrète, etc. Et donc, j'ai pas non plus envie de correspondre aux stéréotypes du jeune homme asiatique efféminé, effacé et tout. Donc, c'est compliqué pour moi ou c'est complexe de trouver un type de masculinité qui me va en prenant en compte ces deux paramètres en tant que féministe d'une part et en tant que personne asiatique d'autre part.
Pour rebondir sur la racialisation, moi, ma racialisation arabo-noire, ma question c'est la masculinité blanche hégémonique. Serait-elle une masculinité plus gentille, même si une partie du monde féministe s'accorde à combattre l'ordre hétéro-blanc-patriarcal? Est-ce que ma masculinité arabo-noire et tous les préjugés racistes que nous avons tous et toutes intégrés en feraient une masculinité plus agressive? Je pense que ça ne se joue pas aussi simplement, vu la classe bourgeoise dont je proviens. Je n'ai pas les codes stigmatisés de cette masculinité arabo-noire. Je n'en connais que les stéréotypes véhiculés par la propagande politico-médiatique. Je ne peux pas être lu que comme un garçon arabe, car les codes que j'utilise proviennent en premier lieu d'une classe bourgeoise, catholique blanche, et à présent d'un milieu anarcho-blablabla majoritairement blanc. Et aussi d'un milieu bobo-branchouille aussi blanc. Alors quelle masculinité est-ce qu'il est possible de voir, de sentir, de paraître? Moi j'aimerais avoir des réponses, j'aimerais être dans un travail avec des féministes assignées femmes autour de ces questions de transmasculinité. Dernière partie, on voulait parler un peu de notre place ou de comment on se vit dans le milieu féministe qu'on fréquente. Donc on va commencer par un point qui s'appelle comment les transidentités ne sont vues qu'à travers le prisme de la blanchité. Tout d'abord, notre place de trans masculin d'un côté, je pense, a été polémique ou problématique ou pas évident, pas fluide dans les milieux féministes, et que dans certains espaces, disons, où la non-mixité choisie, c'est la non-mixité meuf-gwyn-trans, ça peut être évident, du coup, dans ce discours-là, mais pas forcément dans la pratique, malgré qu'on peut noter quand même une amélioration depuis ces dernières années. Et d'un autre côté, cette place qui est un peu problématique, notre racialisation est complètement invisible. Elle n'existe pas, elle n'est jamais abordée. Que la question du racisme ou quoi n'est abordée n'est que très peu abordée ou sinon tournée vers l'extérieur. Que les critiques et les discours sont tournés pour critiquer les lois racistes et sexistes actuelles et tout ça. Et c'est hyper important, hein, c'est pas pour mettre en compétition diverses luttes. Cette invisibilisation de la racialisation fait que quand nos identités trans ou nos transitions posent, des questionnements, des soucis, des problèmes, on est tout le temps renvoyé au même point ou à la même échelle que nos camarades trans-blancs, sans pour autant analyser les rapports de domination spécifiques au racisme. J'avais un exemple, du coup, c'est l'exemple du privilège d'être vu, considéré comme un homme. Donc cet exemple, en fait, serait celui qui nous confère qu'en transitionnant, nous ne sommes plus la cible d'agressions sexistes dans la rue, dans les administrations, dans le monde extérieur. En gros. Bon, déjà, tout d'abord, il faut repréciser que pour ne plus être la cible d'agressions sexistes, il faut avoir un minimum un bon passing. Mais être vu comme un homme racisé implique des mécanismes d'oppression complètement différents que ceux vécus par nos camarades transblancs qui, eux, vivent aussi une transphobie dans les administrations, dans la rue, et ça, il ne faut pas le nier. Donc, qu'est-ce que c'est... Enfin, pour donner un exemple, voilà, moi, quand j'étais une jeune femme, je subissais des agressions sexistes avec des imbrications racistes. Voilà, vouloir se taper la jolie métisse, ou enfin, pas forcément jolie, mais la métisse. Maintenant, c'est clair que le sexisme a disparu. Alors que maintenant, voilà, je me rends compte que je ne suis plus la cible que d'agressions racistes. Bon, et transphobes à certains moments. Ces agressions racistes sont beaucoup plus ponctuelles, mais beaucoup plus violentes. Alors, je replace le quand je parle de beaucoup plus ponctuel, j'ai attention de bien replacer que je parle en mon nom et que c'est mon expérience et que même si ces agressions sont ponctuelles, elles ne concernent peut-être que moi parce que le fait que je vienne d'une classe bourgeoise fait que mes codes sont complètement différents et mes looks vestimentaires que celles d'un trans-FTM Kai. Et du coup, ça me permet peut-être aussi de me fondre dans une certaine invisibilité blanche qui fait que ces agressions, pour moi, sont plus ponctuelles.
Pour terminer, je pense qu'on va un peu développer les phénomènes de racisme qu'on vit dans les milieux féministes. Donc ça, c'est bien, ça a été abordé plusieurs fois, le phénomène du race blind, du coup aveugle des races. C'est vraiment un phénomène comme ça en surface, où c'est vraiment le truc de ne pas voir la racialisation des personnes. Donc les raisons de ce phénomène, on a plusieurs hypothèses, c'est que on ne correspond pas à certaines projections stéréotypées de personnes racialisées, et aussi on vit en France avec... les valeurs universalistes spécifiques à la France qui font que tout le monde devrait être pareil, on est tous des individus et c'est super. Donc j'ai un exemple typique qui m'est arrivé pour illustrer un peu ça, c'est que lors d'une réunion, on était trois, deux personnes blanches et moi, dans un groupe pour écrire la charte d'un groupe politique où il y avait une phrase à un moment qui disait « Nous souhaitons lutter contre le sexisme, le racisme, l'homo, lesbo et transphobie. » Et une des personnes blanches qui était en face de moi a dit « Ah ben bon, quand même, le racisme, oui, mais c'est vraiment qu'une position de principe parce que dans ce groupe, on n'est que des blancs. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Ben, moi, je suis là, salut. » Et donc, la personne m'a répondu « Oui, mais bon, toi, c'est pas pareil. » Bon, c'est pas pareil, je sais pas de qui je suis pas pareil, mais voilà. Et en fait, pour moi, répéter sans cesse qu'on est dans un milieu de blancs, qu'il n'y a que des blancs tout le temps, c'est aussi, ça crée une invisibilisation et on se met à penser qu'en fait, il n'y a que des blancs à ne plus voir, absolument plus voir, que en fait, les personnes racisées existent et sont là. Et donc, pour moi, les conséquences de ce phénomène de race blind, c'est vraiment de ne pas prendre en compte... Enfin, ça permet une fuite et ne pas prendre en compte et ne pas se poser de questions sur la réalité des oppressions, du racisme que vivent les personnes racisées. Et donc, pour moi, on peut rapprocher ce phénomène-là de race blind d'une certaine approche du queer, des théories queer, assez libérale, c'est-à-dire sans analyse féministe, où il y aurait, enfin voilà, une certaine approche du queer, ou alors il n'y aurait plus qu'un continuum du genre, et puis on serait dans diverses identités de genre, et ce serait fluide, et tout serait merveilleux, et on serait plus que des individus dans une société post-féministe, ou je ne sais quoi. Donc pour moi, comme on ne vit absolument pas dans une société post-patriarcat ou quoi, on ne vit pas non plus dans une société post-raciste, où on serait que des individus, où on pourrait échanger dans une grande société multiculturelle, où on pourrait échanger et apprendre de nos cultures dans toute égalité, ce serait merveilleux. Et qu'après, du coup, ce phénomène de race blind, on se rend assez vite compte que c'est une stratégie de fuite de la part des blancs, pour moi, et que en fait, il y a un double effet. Et le double effet, c'est qu'on est en fait souvent renvoyé quand même à notre altérité, à notre différence, par rapport à un référentiel universel implicite blanc. Alors du coup, ça se traduit par des remarques sur notre physique ou quoi, ou des moqueries, des projections racistes, des projections exotiques sur plein de choses, et notamment sur le fait que toutes les personnes racisées se ressemblent et d'être renvoyées souvent à une sorte d'homogénéité. Par exemple, moi, les seules personnes qu'on m'a dit à qui je ressemblais dans la ville où j'habite, c'est que les personnes racisées. Et à qui je ne ressemble absolument pas, qui ne sont pas asiatiques, mais on m'a dit que je leur ressemblais, et que la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai demandé à la personne blanche, évidemment, qui me le disait, mais pourquoi tu trouves que je ressemble à telle personne? Et cette personne blanche, féministe, m'a répondu... Bah écoute, vous avez la même couleur de peau, la bouche pulpeuse, des yeux noirs et des cheveux noirs, bah voilà. Alors vous ressemblez quelque part. Voilà, et que j'avais un dernier exemple un peu pour illustrer ces doubles effets et comment en fait ça peut être une stratégie de fuite, ce phénomène de race blind, que j'ai pas vécu, qui me concerne pas. C'est dans un groupe politique, dans un séjour d'un groupe politique, où il y avait deux personnes racisées, et sinon le reste de personnes étaient blanches, et une des personnes blanches a confondu pendant toute la durée du séjour les deux personnes racisées, alors que ces personnes ont des prénoms qui ne ressemblent absolument pas, qu'elles ne se ressemblent pas, et bon voilà. Et après, cette personne blanche a dit qu'elle n'avait absolument pas vu que ces personnes étaient racisées. Voilà. Et pour terminer notre intervention, on voulait un peu parler du jeu des alliances qui a été beaucoup abordé pendant ce colloque. Et donc moi, pour ma part, je voulais dire que en fait, c'est tout le temps, c'est un truc de dealer tout le temps mes alliances, et que à plein de moments, c'est mettre de côté une partie de mon identité au profit d'une autre partie, et que il n'y a pas d'espace, en tout cas pour moi, où je peux, exister dans toutes mes identités trans, féministes et racisées. Et donc, c'est tout le temps un truc de mettre de côté certaines choses ou d'autres et faire constamment aussi des compromis, quoi. Voilà.
Moi, concernant les alliances, je partage l'opinion de June. Maintenant, je crois que, honnêtement, je suis moins... au clair que lui, parce que c'est vrai, voilà, j'ai envie de lutter avec des transpédéguines non straight féministes, que comme on en a parlé, il y a énormément d'affects qui rentrent en compte, et que voilà, moi, mes amis, mes amantes, mes amoureuses, mes, enfin voilà, tout ça, c'est majoritairement des personnes blanches. Du coup, c'est compliqué à dealer, et il y a aussi dans une perspective de lutte contre le racisme et aussi contre le racisme intégré, j'ai envie de lutter avec ces personnes qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Du coup, on vous a exposé un petit peu nos parcours de vie, nos analyses et nos critiques du mouvement face à la racialisation. Je pense que ce dont on a envie à présent, c'est de renforcer et d'affiner nos discours, de créer des espaces. Ouais, enfin, quand je dis discours, nos discours, Il faut bien le replacer, le no pluriel, parce que nous sommes dans des hétérogénéités de racialisation, et c'est important de le repréciser. Donc il y a des non-mixités dans les non-mixités qui vont être créées. Je pense que c'est très important pour plein de personnes qui sont là, en face de moi. Du coup, créer des espaces de rencontre, prendre de la force, et comme vous l'aurez compris, créer de la visibilité pour nos altérités. Tu peux applaudir.
Et c'est la fin de notre émission de Dégenrer, toujours l'émission féministe, toujours pour déranger et toujours sur Radio Kaléidoscope et 97 FM. Donc voilà, c'était cette émission sur la question de l'aveuglement à la race. Alors j'espère que ça vous a apporté un peu des billes de réflexion. Comme le dit Anakin, je crois, le chemin est long, mais l'important, c'est d'y croire.
Alors, quelques pistes bibliographiques. Il y a l'idéologie raciste de Colette Guillaumin, les féministes et le garçon arabe de Nassira Guenif, qui était d'ailleurs invitée au colloque des UEH.
C'est vrai, peut-être on aura l'occasion d'écouter son intervention dans une autre émission. Ah, ou d'ailleurs, on peut aussi faire de la pub pour nos camarades lyonnaises. De On n'est pas des cadeaux, émission transpédéguine qui passe sur Radio Canu et qui se trouve sur Internet, et ils ont fait une émission sur l'homonationalisme. Je pense qu'il peut un peu faire écho à notre émission de ce soir. N'hésitez pas à la chercher sur Internet.
Sinon, vous pouvez lire le très intéressant Classé dominé, qui sont les autres, de Christine Delphi, et aussi l'anthologie du black féminisme. Qui d'ailleurs a été publié seulement en 2008.
Alors que, enfin, qui a été traduite en France.
En France.
Parce que aux États-Unis, elle existait. C'est des textes qui datent un peu. Donc c'est bien la preuve qu'en France, dans les milieux universitaires, qui sont, je pense que, qui sont pas que le reflet de la société, mais notamment qui quand même. Ouais, c'est assez important de se dire que dans les milieux universitaires en France, ça fait pas très longtemps qu'il y a des, enfin, peut-être. Bon, pas plus de 10 ou 15 ans qu'il y a vraiment des universitaires qui bossent là-dessus, quoi.
Des universitaires blanches, en tout cas.
Ce bouquin-là, il a été coordonné par... comment
ça s'appelle ? Elsa Dorlin.
Ouais, voilà. Tous ces livres, on peut les trouver, par exemple, à la bibliothèque féministe. Donc, la bibliothèque féministe, enfin, là, celle de Grenoble, en tout cas, elle se trouve à la BAF, qui est un local associatif comme un genre de centre social autogéré, qui a ouvert ses portes là, à l'automne 2011. Et donc, la bibliothèque y a déménagé à peine il y a quelques jours. Et donc, elle, voilà, elle est ouverte tous les lundis de 16h à 20h, en mixité le premier lundi du mois et en non-mixité meuf, gwyn, trans pour les trois autres. Donc voilà. Et c'est également dans ce lieu-là qu'il y aura lieu les écoutes collectives de notre émission. Donc ce lieu, il se trouve où ?
Il se trouve deux chemins des Alpins au croisement de
rue
des Alliés et rue de Stalingrad.
À Grenoble. Donc voilà. Et donc tous les lundis, vous pouvez emprunter notamment ces livres-là si vous avez envie de creuser un peu le sujet dont on parlait ce soir.
Alors un petit agenda féministe. Sachez que le 20 novembre, c'est le TEDOR. C'est la journée d'hommage aux personnes trans assassinées. Et à cette occasion, il y aura la projection du film Tomboy. Donc le 20 novembre à 19h à la BAF, au centre autogéré.
Voilà. Donc Tomboy, qui est un film de Céline Sciamma, qui est vachement chouette. Si vous ne l'avez pas vu, profitez de cette occasion pour le voir. Et on voulait aussi parler de vous inviter fortement à nous rejoindre, à rejoindre les féministes, à une marche de nuit féministe qui aura lieu à Lyon le 26 novembre. J'ai complètement oublié l'heure du rendez-vous.
19h.
À 19h et c'est Place du Pont à la Guillotière. Voilà, rendez-vous pour une marche de nuit féministe. Alors les marches de nuit, je sais pas si vous en avez déjà fait, c'est quand même des événements importants dans l'histoire féministe, des moments pour être ensemble, pour se sentir forte dans la rue. Qui est pas forcément toujours un endroit où on se sent bien, notamment la nuit, parce que en tant que meuf, on nous a pas forcément appris à nous sentir chez nous dans la ville. Donc les marches de nuit, c'est un temps pour se sentir ensemble, se sentir nombreuse, se sentir forte. Et voilà, donc ça vaut le coup. Et puis là, c'est une manif unitaire, donc ça veut dire qu'elle va regrouper plein d'assos féministes et d'organisations féministes différentes, et c'est assez rare pour être noté, donc moi je suis assez contente de ça et je vous invite fortement à y participer. Donc voilà, le 26 novembre à Lyon.
Cette émission touche à sa fin et vous pouvez écouter Tragédie d'une trajectoire de Kazé.
Et on se retrouve dans 15 jours.
Au revoir.
Bonne soirée.
De l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connu, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. N'ai aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour, est noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale, ne vois que du complot dans les lignes du journal, n'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore, et que de toute manière on en veut à ma crinière, c'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière, avec un poignard imprimé sur la bannière. Pourquoi suis-je si peu sociable, aussi sensible, pénible, irresponsable, et me sens seul quand mes semblables me prennent pour cible? Pourquoi être stable dans ma tête est impossible? Parce que j'ai vu venir de loin mon calvaire, braqué. braquer mon avenir avec un revolver. Je préfère vous prévenir, j'ai de la colère dans le regard quand je marche sur vos boulevards. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue. Je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passe mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Cette belle insouciance de l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen, jolie petite ville de France, où quand le nègre passe, y'a des dents qui grincent. Je vous en prie, s'il vous plaît, tuez-les tous. Vous m'adressez Sainte Marie, pleine de grâce. J'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au seau d'eau dans ma face qui a tué ma petite enfance. Et ces baves de la dame de service, j'ai fait payer son fils, à la finale c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale tignasse. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs, dont je réplique. Moi l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite c'est des claques, donc j'attaque. Affrontement physique et mise à sac, ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse, je l'ai pas connue. Je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passe mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Vous voulez dire, il suffit de peu de choses pour construire un enragé. Il suffit de peu de choses pour construire un engagé. Quelques humiliations, quelques injures suffisent.
Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse.
Tragédie d'une trajectoire.
Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse.